Bien, ben, je remercie d'abord Tristan de m'avoir invité à évoquer la bande dessinée parmi vous, mais en rappelant que je ne suis en rien un spécialiste de ce sujet. Ce qui m'intéresse ici, c'est peut-être davantage la perception actuelle du Moyen Âge telle que peut l'avoir le grand public et l'imaginaire contemporain qui se rapporte à cette période que l'on relie avec des yeux actuels, mais avec aussi tout un bagage culturel bourré de représentations, de fantasmes, etc. J'ai placé cet exposé sous le patronage du professeur Alambic, qui peut-être, au moins pour les gens de ma génération, a appris à un grand nombre de garçons et de fils qui étaient à la sigillographie, donc je lui dois beaucoup. J'aurais même aimé vous placer d'autres extraits des Sceptres d'Ottokar, qui est, je crois, une magnifique transposition d'un récit médiéval dans une sorte de Belgique balkanique de l'entre-deux-guerres. Alors, ce qui. Vous avez ici le plan de ce que je vais dire, souvent à bâton rompu. En effet, j'ai été victime, moi aussi, des problèmes de grève de train, ce qui fait qu'il y a eu une certaine confusion dans la préparation de cet exposé et que j'ai perdu une partie importante de ce que je voulais vous présenter. Comme point de départ, je voudrais évoquer un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est celui des fêtes médiévales. Les fêtes médiévales font partie de notre société de loisirs. Vous savez qu'à la belle saison, elles se produisent pratiquement tous les dimanches. Il y a une sorte de liturgie de la chose. Et la plus récente, à laquelle je n'ai pas assisté, mais dont j'ai lu les échos de la presse, se passait non loin de Genève, à Andilly, en Haute-Savoie, et apparaissait comme étant une fête d'un syncrétisme extraordinaire, puisque on avait associé aux chevaliers et aux ripailles habituelles à ce genre de fête des habitants de l'île de Pâques, qui, comme vous le savez tous, fait partie des horizons du Moyen Âge, rappelant par là que le Moyen Âge est finalement un exotisme de proximité dans lequel nous pouvons puiser un stock extraordinaire d'images et d'événements. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par Tristan et qui me dispense d'avoir à y revenir. Je voudrais cependant rappeler, c'est comme une chose assez importante, ce qu'est finalement la bande dessinée qui implique un rapport texte-image souvent assez complexe en suivant un séquençage et en donnant complémentarité et autonomie à ces deux éléments, l'image et bien entendu la bulle qui nous donne un texte. La bande dessinée, ce n'est pas une histoire illustrée, c'est l'illustration qui fait le récit. Ce sont des généralités, je n'y reviens pas. Je vous rappelle cependant, et ça mérite d'être dit, que malgré quelques exemples qui n'appartiennent pas à la culture hexagonale ou belgo-hexagonale, la bande dessinée historique en particulier, reste une spécificité de notre culture. Il n'y a pas de bande dessinée allemande, il n'y a pas de bande dessinée anglaise, ou du moins pas tout à fait sous la même forme, et il n'y a pas de bande dessinée italienne, à quelques exceptions, comme Hugo Pratt, etc., sur lesquelles je ne reviens pas. Je voudrais rappeler aussi que le phénomène s'inscrit dans un temps relativement court, trois générations. Puisque pour l'essentiel, cette bande dessinée apparaît dans l'entre-deux-guerres et se développe essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, à travers des médias comme Tintin, Spirou, Cœur Vaillant, j'en passe, pour rappeler que son apogée, peut-être sommes-nous déjà après cet apogée, s'est situé au moment de la ligne claire, dans les années 50, 60, 70, et que nous sommes actuellement confrontés à des changements, peut-être même à une mutation. Je voulais rappeler, mais ça a été dit par Tristan, les différents genres de cette bande dessinée, qui va effectivement de la dérision historique, la bande dessinée pour enfants, à la bande dessinée pour adultes, à la bande dessinée pédagogique, j'en passe, bien entendu, et des meilleurs, à la bande dessinée de reconstitution historique, avec quelques exemples très significatifs, comme les tours de Bois Maury, dont vous avez ici un exemple. Alors, bien entendu, quand on évoque la bande dessinée relative au Moyen-Âge, on essaie toujours de la placer en perspective et d'en faire l'héritière du grand livre d'images qui était les cathédrales selon Émile Mal, et de retrouver une sorte de continuité parfaitement factice entre l'image médiévale et l'image de bande dessinée. Alors, je ne vais pas revenir sur cette question, qui est un peu un topos du genre. Bien entendu, on remonte aux origines. Alors, les origines, ça peut être la grotte de Lascaux, qui n'appartient pas au Moyen-Âge, mais c'est aussi, bien entendu, la broderie de Bayeux, qui est constamment invoquée comme étant le modèle du genre. Ça se discute, je n'ai pas le temps d'y revenir. On pourrait cependant rappeler que l'une des caractéristiques d'œuvres comme la broderie de Bayeux ou les nombreuses tapisseries à thème hagiographique ou aux récits héroïques, que sais-je encore, ont effectivement pour caractéristique de nous présenter une lecture et un séquençage avec, le cas échéant, des bulles, des phylactères ou en tout cas des textes explicatifs, l'image pouvant se lire sans le recours à un texte très explicite. J'ajouterai enfin que un autre genre médiéval peut être sollicité pour cette généalogie, qui est le genre des chroniques illustrées. Reste à savoir si ces chroniques illustrées sont des livres d'images destinés à être lus, feuilletés et à servir à l'éducation du grand public ou non. C'est une autre affaire, mais on pourrait, bien entendu, évoquer les chroniques suisses, chroniques illustrées, qui sont bien connues et qui sont un répertoire extraordinaire pour l'historien de la vie matérielle. Je voudrais enfin rappeler que l'image fabriquée, c'est par excellence, et peut-être pour des raisons économiques, le média le moins cher dans le domaine de la reconstitution en 2D. Et me situer donc dans une tradition de reconstitution archéologique du passé qui a été illustrée depuis Viollet-le-Duc ou depuis les peintres d'histoire du XIXe siècle jusqu'aux tableaux pédagogiques comme ceux que j'ai pu, par exemple, connaître dans mon enfance, qui ne sont pas des bandes dessinées, bien entendu, mais qui sont des images qui sont conçues suivant le principe de la ligne claire, d'une lisibilité et d'une relative polysémie, porteur d'informations, et d'informations fiables sur, ici par exemple, la prédication de la croisade avec une authentique église romane, la reconstitution d'un bourg, des costumes à peu près conformes à ce que l'on connaît. Ce type de reconstitution appartient aussi bien au domaine de l'éducation qu'au domaine des loisirs, voire au domaine du jouet avec les planches à découper, etc. J'ai eu l'occasion de travailler un peu, et c'est ce qui peut justifier ma présence ici, avec Jacques Martin. Avec Jacques Martin parce que nous avons ensemble réalisé un album, non pas de bande dessinée, un album qu'on appellerait un album documentaire, composé de 12 chapitres qui sont des scènes d'histoire d'une région, en l'occurrence l'Alsace, un récit texte relatant un événement en général anecdotique replacé dans son contexte et une ou plusieurs illustrations destinées à apporter des compléments et à rendre un peu plus agréable la lecture du texte que j'ai écrit. Et je me suis en particulier intéressé à un épisode relatif au siège d'un château de chevaliers brigands au bord du Rhin en 1333. Siège d'un château, dont il ne reste pas de traces archéologiques, d'un château qui était sans doute un château de terre et de bois situé sur l'île du Rhin, épisode qui a déjà été illustré par une chronique bernoise de la fin du XVe siècle, que voici, qui nous montre ici une image de reconstitution. Le siège de ce château de Schwanau, fait à partir d'un camp de siège que vous voyez, par une coalition dont vous connaissez les drapeaux, et sous la forme d'une attaque particulièrement violente, dont on voit les traces, d'un château totalement redoutable. Alors, cette scène avait été illustrée à plusieurs reprises au XIXe siècle, sous la forme de gravures ou de chromolithographies romantiques, qui s'étaient inspirées en partie de la miniature suisse de la fin du XIIIe, faisant de ce château dont le siège avait duré 6 semaines quelque chose d'extraordinairement impressionnant. Et j'avais donné pour consigne à Jacques Martin, halte là, ce château était tout sauf la reconstitution de Carcassonne, et qu'il fallait montrer une motte castrale avec des palissades en bois. Eh bien, la documentation que j'ai fournie à l'illustrateur s'est substituée la documentation romantique qui correspondait peut-être mieux à l'attente et du dessinateur et du public qui a reconstitué un château qui, en gros, est un château philippien, là où il aurait dû y avoir quelque chose d'assez misérable et en tout cas très éloigné de cette vision romantique. Comme quoi, très souvent, un illustrateur est tributaire de sa propre documentation et n'écoute pas les conseils de celui qui se prétend expert. Ce travail de reconstitution a fait l'objet de quantités invraisemblables de publications, je n'y reviens pas, souvent sous forme d'histoire documentaire, souvent aussi sous forme de bande dessinée. Je pense d'ailleurs que la planche documentaire, comme ce que vous voyez ici, répond de manière plus pertinente à ce type de, comment dirais-je, de transmission d'informations. Il n'empêche que, dans la foulée de la bande dessinée, un certain nombre de dessinateurs, je pense en particulier à Jacques Martin, avec les voyages d'Alix, de Lefranc, de Yenne, et que sais-je encore, voire à Vasco, à Chaillet, ont prolongé leur bande dessinée de fiction par des ouvrages documentaires, par des albums, comme ce que vous voyez, par exemple, ici, qui ont la prétention de faire une reconstitution historique rigoureuse, ce qui reste parfois à prouver. J'ajoute, et c'est une incidente, que les dessinateurs ont des sources d'inspiration, sources d'inspiration qui ne sont pas forcément celles que leur donnent les archéologues et les historiens, mais qui sont aussi celles que leur donnent des artistes du passé, et en particulier le Moyen-Âge, en bande dessinée, s'inspire beaucoup d'artistes de l'extrême fin du Moyen-Âge, voire de la Renaissance, d'artistes fantastiques, je pense à Bosch, je pense à Bruegel qui passe pour être un des grands inspirateurs du Moyen-Âge en bande dessinée, même s'il est né 50 ans après le Moyen-Âge officiel, peu importe. Je vous renvoie à l'extraordinaire catalogue de l'exposition qui avait été montée par la Fondation Glénat sur l'inspiration fantastique dans la bande dessinée à partir de ces sources picturales empruntées pour l'essentiel à la Flandre de la fin du Moyen-Âge. Je vais arriver maintenant à un deuxième point, je vais essayer d'accélérer, je n'arrive plus à retrouver ma montre, donc je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais essayer d'être un peu plus rapide. Rappeler un deuxième point qui est le rôle pédagogique attribué à la bande dessinée. C'est peut-être ce qui va être évoqué la semaine prochaine par la suite de cette journée d'études. En vous rappelant que la bande dessinée ou le genre de littérature illustrée qui nous intéresse ici a été sollicité depuis longtemps dans un but pédagogique. Ceci depuis les origines même, et je voudrais vous rappeler ce qui est peut-être la mère de toutes les bandes dessinées, qui est la Sainte Russie de Gustave Doré, qui date de 1854, qui est une histoire polémique, drôlatique et assez fantaisiste de la Russie, hein, dont vous avez ici quelques-uns des traits, les plus caractéristiques, hein, ici. Par exemple, l'origine de l'histoire de la Russie se perd dans les ténèbres de l'Antiquité. On est assez loin de la bande dessinée réaliste. En revanche, c'est un type de dessin très suggestif qui permet effectivement de servir une démonstration, en l'occurrence polémique. Cet ouvrage est un incunable de la bande dessinée. Vous avez par exemple ici le résumé du règne du tsar Ivan IV, le terrible, qui est une page rouge, rouge sang, évidemment. Un deuxième point qui mérite d'être pris en compte, c'est celui, et c'est une des sources de la bande dessinée médiévale, je crois que c'est peut-être même l'une des sources les plus puissantes, au moins de la genèse de ce qui s'est passé dans les années 40 et 50, c'est la tradition hagiographique. La tradition hagiographique, qui est celle des vitsains illustrés, à la limite, ça vient des fresques, ça vient des cycles de vitraux, ça vient peut-être lointainement des tapisseries médiévales. Hein, et vous savez qu'il existe encore des quantités de vie de saints en bande dessinée, destinées à la jeunesse, la bonne presse, les éditions Fleurus, etc. Ce qui est intéressant, c'est que souvent la trame du récit de ces bandes dessinées réactualisées, modernisée par l'image, reste formée par des textes géographiques qui peuvent dater, dans le cas par exemple de la ville de Sainte-Odile, qui est une sainte locale alsacienne. Il s'agit d'une transposition d'une vita du Xe siècle, pratiquement des variés tours. Même remarque pour d'autres vitsains, je ne vais pas insister là-dessus, en rappelant cependant que le genre est encore vivant, s'il est modernisé dans sa forme, il reste dans son fond pratiquement inchangé. Voilà un exemple, hein, la vie de Césaire d'Arles. Alors la reconstitution historique est peut-être un peu plus fidèle, mais on en reste à l'histoire sainte. On parlera de Philippe le Bel cet après-midi, je pense. C'est le genre biographique en bande dessinée qui peut avoir un certain nombre d'avatars, de transpositions, comme celle-ci qui est leur remarquablement bien faite. On évoquera aussi, et je ne vais pas, le travail qui a été fait par Beate Langenbrouwer sur la Normandie, je n'y reviens pas ici. Donc, je résume, l'histoire en bande dessinée, c'est en grande partie du récit, de l'action, mais aussi de l'image de reconstitution qui vise un objectif pédagogique. Cette image a une étonnante fixité, puisqu'elle reste en grande partie tributaire de l'iconographie héroïque nationale du XIXe siècle, comme le montre par exemple, en marge de la bande dessinée, ces timbres qui sont d'une ringardise tout à fait incroyable, mais qui nous montrent justement ces éléments de continuité. Avant l'arrivée de la bulle qui a transformé la bande dessinée, on a effectivement pu recourir à ce type de présentation, ce type de mise en page. Voici emprunté à une histoire régionale, hein, un récit censé se passer à l'époque carolingienne ou post-carolingienne, où nous avons un récit de fiction, un petit gamin qui est confronté à, je sais pas quoi, une guerre, et vous avez l'explication historique. Donc une image muette, un texte qui décrit l'image muette, le texte fait déjà double emploi, en quelque sorte, et un texte savant qui nous indique quel est le contexte dans lequel ces images doivent être lues et comprises. Je passe, ça nous mènerait très loin, mais c'est un mode très archaïque d'utilisation des strips de la bande dessinée, qui est totalement passé de mode, mais dont les relents sont toujours sensibles. De la même manière, des éditeurs ont exploité le filon et effectivement ont essayé de faire passer par, le genre bande dessinée, toute une série d'histoires censées être attrayantes, censées s'adresser à un lectorat jeune et lui transmettre des informations fiables. Nous avons par exemple une série qui a été publiée par Larousse dans les années 80, des histoires régionales qui se déroulent souvent sur des centaines d'années et qui visent à nous donner les grandes lignes d'une histoire. Vous voyez par exemple l'histoire d'Alsace éditée par Larousse qui nous montre un beau symbole, le chantier de la cathédrale de Strasbourg, avec des gens faisant ripaille, une scène directement inspirée de l'iconographie rabelaisienne, qui est aussi peut-être une des sources d'inspiration de ce Moyen-Âge. Et voilà comment se présentent de telles histoires où nous voyons des textes, énormément de textes. Autrement dit, l'image sert essentiellement de prétexte. La preuve, beaucoup de ces images sont simplement des gros plans de personnages qui parlent. Autrement dit, ici nous avons pratiquement la négation même de ce qu'est la bande dessinée. L'image n'a pas de pertinence en soi. Le texte est un texte ici assez verbeux, avec parfois quelques références érudites ou savantes pour agrémenter les choses, par exemple des cartes ou par exemple des reproductions de documents anciens, souvent sur le mode de la cuistrerie la plus parfaite. Ainsi, par exemple, ici, l'auteur de cet ouvrage a illustré, la roue de la fortune pour essayer de montrer que les choses se font et se défont en utilisant une miniature empruntée, dit-il, à la bibliothèque de Monaco, ce qui est un bel exemple d'érudition. Tout le monde sait que Bibliotheca Monacensis ne désigne pas la bibliothèque du prince, mais une bibliothèque qui se trouve à Munich. Et voici un autre exemple, ça mérite d'être dit quand même, un autre exemple de cette espèce de mauvaise utilisation de la bande dessinée, où nous avons des images qui sont purement génériques, c'est-à-dire qui ne montrent rien, voire ces gros bonshommes qui sont en train de raconter une histoire, ne présentent qu'un intérêt très très modeste. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment sont composées les bulles, quels sont les textes qui sont sollicités. Ainsi, par exemple, tu es bien fendu de la gueule. Note, tu as la langue bien pendue, Reinhold. Et il est vrai que par le col du Saint-Gothard et par notre vallée rhénane, le commerce ne cesse de croître. Bénis soient les Anglais qui disputent quelques provinces à la France. Voilà un texte. Un bon schéma remplace une longue démonstration. Tu es rassoté par ma foi. Donc nous avons des locuteurs qui s'expriment dans une espèce de vieux français de pacotille, tandis que les envahisseurs viennent ravager un pays prospère en hurlant Donnerwetter en allemand, avec traduction tonnerre, entre parenthèses allemand, et dis to the Alsatian bastards, mort à ces chiens alsaciens, anglais. Bon, je passe, c'est un cas particulièrement affligeant, mais je pense qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie en rappelant que ce type de bande dessinée pseudo-historique abonde et surabonde et pose d'emblée un autre problème, celui de l'objectif visé par les éditeurs. S'agit-il de livres destinés à être achetés par des grands-parents à leurs petits-enfants supposés incapables de lire autre chose que des images? S'agit-il de livres inutiles? S'agit-il de quelque chose qui, au contraire, a un vrai rôle pédagogique que je vous laisse juger? Je pense que le cas le pire que je connaisse est l'histoire de la Bretagne, dont vous avez ici un des très très nombreux volumes, qui est en fait une histoire texte qui est dispatchée entre cases et bulles et qui s'avère finalement être un catalogue d'informations, d'événements, sans aucun véritable ressort. Et on arrive effectivement à une des grosses questions, qui est celle du ressort dramatique de la bande dessinée. La bande dessinée implique un scénario, un séquençage, un récit. Il lui faut donc un ressort. Un ressort, alors, comment le trouver? Et je crois un des points qui va être évoqué au cours de cette journée. J'en arriverai donc à un troisième point que j'espère ne pas traiter trop longuement, mais j'aimerais revenir sur quelques-unes des caractéristiques du Moyen-Âge de bande dessinée, telles que nous le rencontrons à travers les albums qui ont été cités tout à l'heure par Tristan, mais ceux également que j'ai assez rapidement évoqués. Quel Moyen-Âge ? Quel Moyen-Âge ? Et quelle image va en ressortir? D'abord, je suis frappé de voir que, pour l'essentiel, le Moyen-Âge qui nous est proposé par la bande dessinée est un Moyen-Âge sombre, un Moyen-Âge heusingien, un Moyen-Âge automnal. Alors, un Moyen-Âge nocturne. Ce trait, on peut le voir aussi bien à partir d'éléments esthétiques, un Moyen-Âge de ruines, un Moyen-Âge de forêt, c'est quelque chose de très caractéristique, un Moyen-Âge qui confine souvent à l'héroïque fantasy. On remarquera par exemple que, pour l'essentiel, c'est le bas Moyen-Âge qui est le plus sollicité, ou lorsqu'on traite du Moyen-Âge central, on le rhabille en grande partie avec ses couleurs sombres qui sont celles des temps de crise, de la guerre, la peste et la faim. Un automne à rallonge. Le deuxième point, c'est ce que j'appellerais le syndrome de Bonagil, c'est-à-dire la recherche d'un décor dans lequel un certain nombre d'éléments structurants apparaissent d'une manière récurrente. C'est bien entendu le Moyen-Âge des châteaux. Le Moyen-Âge des châteaux, et en particulier des châteaux fantastiques. Le château de Bonagil, vous le savez tous, c'est un château construit à l'extrême fin du Moyen-Âge, qui est une espèce de caricature de château fort. Le château fort dont on aurait pu rêver, château fort totalement inutile, ou en tout cas fort peu pertinent. Eh bien, ce Moyen-Âge à décor castral fait partie, c'est lui qui fournit en quelque sorte le topos le plus courant. Et mieux encore, le château fort, le siège du château fort, le château fort de son rapport à la ville, tel qu'il apparaît, bon, par exemple, ici, sur cette bande dessinée qui illustre un parc d'attractions que vous connaissez tous. un Moyen-Âge peu archéologique, d'une manière très paradoxale. Alors, y compris sous sa forme dérisionnelle qui était évoquée tout à l'heure, ce Moyen-Âge reprend un certain nombre d'éléments que l'on retrouve depuis Notre-Dame de Paris, depuis Viollet-le-Duc, depuis Walter Scott, c'est-à-dire un Moyen-Âge de colombages, de remparts, de têtes fumiers, de rues mal entretenues, un Moyen-Âge, comment dirais-je, là aussi, qui ne répond peut-être pas à ce que les archéologues nous apprennent. Or, justement, les personnages, et je pense en particulier aux personnages de fiction qui évoluent dans ce Moyen-Âge, là aussi, appartiennent à toute une série d'archétypes. Ces archétypes, on pourrait presque en retrouver l'exemple le plus parfait à travers Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris qui nous propose quoi ? Le prêtre pervers, un peu alchimiste, qu'est Claude Frollo, le doux ménestrel qu'est Pierre Gringor, Esmeralda, sorcière et femme libérée, ou presque, et Quasimodo, le monstre. Voilà quatre personnages qui vont se retrouver pratiquement dans tout ce Moyen-Âge de fiction. Avec une remarque qui me paraît, je crois, là aussi importante, c'est de constater que, autant, pendant longtemps, un Moyen-Âge hagiographique a distillé une image très sulpicienne de bons moines, de bons prêtres et de bonnes religieuses, autant la bande dessinée contemporaine est à l'heure actuelle en train de donner du clergé médiéval, de l'église médiévale, une image noire, une image souvent perverse, une image pécheresse, comme si le personnage principal du Moyen-Âge de la bande dessinée était le mal, et plus particulièrement le démon. On en trouvera de très nombreux exemples. Quand je prends par exemple la bande dessinée que vous avez ici, qui s'appelle « Sept missionnaires partent évangéliser de féroces vikings », d'abord c'est bien entendu un pléonasme, parler de féroces vikings, mais là aussi, ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons, sous prétexte d'histoire, une collection des sept péchés capitaux incarnés par le moine paillard, le moine pervers, qui font partie donc de ces archétypes dont vous avez ici quelques exemples de l'iconographie, ou bien moine ventripotent, ou au contraire ascète sadique, qui rejoint un autre personnage qui parcourt toute la bande dessinée de fiction, qui est l'inquisiteur, maigre, sinistre, pervers, dont le frère Calais est l'alchimiste ou le nécromancien, ou l'hérétique. Ce qui est, je crois, intéressant, c'est que ces personnages apparaissent d'une manière un peu plus fréquente que le bon Saint-François, ou Eudrigo, ou que sais-je encore, avec, là aussi, toute une série de traditions sur lesquelles je ne reviens pas. Autre élément, les savoirs cachés, les traditions secrètes. Alors là aussi, je ne vais pas ouvrir la boîte à Pandore, mais je rappelle que cette thématique du Graal, de la relique, des pouvoirs mystérieux, de la transmission initiatique d'un savoir non subversifs, etc., etc., font partie, là aussi, des topoi, quitte à être réactualisés. Ici, par exemple, hein, une série qui est consacrée au sanctuaire de Milan, de Turin, excusez-moi. Je l'arriverai encore à d'autres traditions, qu'il s'agisse de l'enfant caché de Jésus-Christ et de Sainte-Marie-Madeleine, ou du quatrième, du cinquième évangile, du troisième testament, que sais-je encore. Dans cette espèce de grand bric-à-brac médiéval, je pense qu'il faudrait accorder une attention particulière au nom des personnages et au titre des œuvres. Ici, Malemort, un exemple parmi beaucoup d'autres, mais quand on prend, par exemple, les titres des ouvrages classiques de Chaillet ou de Martin, on constatera qu'on a une collection assez impressionnante d'alchimistes, d'hérétiques, d'or maudit, de, je sais pas quoi, le diable, etc. J'en passe. Je l'arriverai à un autre thème qui me paraît intéressant, qui est celui de la permanence du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, c'est-à-dire aussi bien d'un héritage qui est transmis de génération en génération, de secrets, mais aussi de lieux qui sont des lieux où se cache une tradition, ou des lieux où des pouvoirs particuliers sont en œuvre. Et à cet égard, on pourrait évoquer l'une des premières œuvres de Jacques Martin, le premier album de Lefranc, qui s'appelle « La grande menace », et qui n'est pas autre chose qu'une transposition au XXe siècle d'un récit de chevalier brillant, en l'occurrence du chevalier Axel Borg, qui menace Paris d'une explosion atomique à partir de la robe de lancement qui se trouve dans le donjon du château de la Tour Noire, que nous voyons ici sur la couverture de cet album. Un exemple, je crois, assez intéressant, qu'on pourrait développer très 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 longuement, parce qu'il établit constamment ce rapport entre un passé médiéval et un présent de la guerre froide. On pourrait rappeler aussi que l'un des grands artifices de la bande dessinée historique est la machine à remonter le temps, ou le chronoscaf, que vous voyez ici, qui permet de jouer sur des interférences entre des périodes parfois très éloignées. Hein, et je vous renvoie, par exemple, à ce récit des aventures de Mortimer, le piège diabolique, qui nous fait arriver en pleine jacquerie, dans une image de la jacquerie qui vient directement de la lecture des ouvrages du XIXe siècle, et en particulier les ouvrages les plus réactionnaires traitant de ces événements du XIVe siècle. Après cet exposé assez décousu, dont je tiens à m'excuser des carences qui tiennent en grande partie à la disparition d'une partie importante de mes illustrations et de ma démonstration au cours du montage de ce PowerPoint, je voudrais aussi vous rappeler, et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par Tristan, le rôle que la bande dessinée peut jouer dans la relecture d'une histoire. Vous savez qu'à l'heure actuelle, effectivement, on voit le Moyen-Âge à partir... on voit la guerre de 14-18 à partir de l'œuvre de Tardy, qui apparaît ici en exergue à des quantités d'expositions, de colloques ou d'ouvrages. La chose est-elle possible pour le Moyen-Âge? Probablement pas tout à fait, parce que le Moyen-Âge n'a pas d'interprète en bande dessinée de la puissance et peut-être du monopole qu'exerce Tardy. Il n'empêche que le Moyen-Âge de bande dessinée, le Moyen-Âge de fiction, le Moyen-Âge reconstitué tel que nous le connaissons, peut infléchir notre lecture, L'autre lecture, qui est une lecture qui a été en grande partie filtrée par l'imaginaire fantastique que diffuse le cinéma, par l'heroic fantasy, par une certaine érotisation, par une certaine déchristianisation, etc., qui font que il est probable que le Moyen-Âge le Moyen-Âge que nous avons dans nos têtes, c'est un Moyen-Âge qui a été en grande partie revu et corrigé par ces lectures qui font partie de nos divertissements, mais qui nous imprègnent d'une manière particulièrement forte. Et c'est sur cette image que je clos cette très rapide présentation.
Merci beaucoup pour cet exposé intéressant, notamment pour ceux qui aiment l'Alsace, parce qu'il était quand même très bien représenté. Je voulais juste poser d'abord une question sur le. Vous avez montré l'histoire de la Bretagne, oui, de Reynald Séché, qui, bon, d'un point de vue de la bande dessinée, c'est la négation de la bande dessinée.
Totalement.
Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. C'est aussi une histoire révisionniste.
Absolument.
Négationniste et révisionniste qui prône l'idée d'un génocide vendéen, qui est une bande dessinée politiquement extrêmement ancrée. Est-ce que pour l'histoire de l'Alsace en bande dessinée, et plus globalement pour les histoires régionales qu'on a qui ne se vendent que dans les musées locaux, est-ce que toutes ces histoires se servent de la caution historique, du vernis d'objectivité que donne la caution historique pour avancer des arguments politiques, ou est-ce que l'histoire de la Bretagne serait plutôt un contre-exemple ?
Bon, l'histoire de la Bretagne, c'est effectivement le cas limite. Par chance, les images sont tellement ennuyeuses et le texte est tellement embêtant que personne ne le lit. Il suffit d'aller dans des brocantes pour voir des piles complètes des ouvrages de Reynald Séché. Bon, le risque, effectivement, en utilisant le média qui est la bande dessinée, c'est effectivement d'y faire passer un certain nombre de choses qui sont parfois assez douteuses. Je prends le cas de l'histoire publiée par les éditions Larousse, elle est déjà très ancienne, elle a une trentaine d'années. Ce qui est là de tout à fait intéressant, c'est de montrer la thèse d'une fixité extraordinaire des hommes qui sont les mêmes depuis la nuit des temps jusqu'à l'époque actuelle, l'influence d'esprit des lieux, une espèce de tradition plus ou moins secrète. L'histoire d'Alsace publiée par les éditions Larousse avait été écrite par un personnage qui est devenu par la suite l'avocat du Front National. Et c'est une histoire qui est effectivement très douteuse dans son contenu. Pour le reste, je pense que la plupart de ces histoires régionales sont des histoires régionalistes. Régionalistes qui consistent à répéter le refrain de « Ah, que nous sommes bien, que nous sommes bien ici, comme nous avons été... comme notre bonheur a été perturbé par des prédateurs nombreux, etc. » Ça, c'est le thème récurrent. Je pense que la plupart de ces histoires régionales ou régionalistes passent à côté de ce que pourrait apporter la bande dessinée, c'est-à-dire une vraie reconstitution et la transmission d'un véritable savoir. Soit parce que l'auteur des textes veut en dire beaucoup trop, soit parce que le dessinateur est totalement incompétent. On pourrait en parler assez longtemps. J'ai vu des quantités d'exemples pour toutes les régions de France. À l'étranger, ça n'existe pas. Hein. Ça mérite d'être dit. C'est aussi un art populaire. Hein.
Oui. En Suisse, il y a toute l'histoire suisse en bande dessinée, 3 volumes. Ça va un peu vite, mais enfin, ça existe. Alors les Suisses, un peu comme les Belges, hein, c'est quand même dans notre... c'est pas si loin de notre culture. Peut-être. Mais c'est vrai,
Oui, absolument. En tout cas, le phénomène est quand même très limité, là, l'espace. Hein. Alors, ce qui est quand même intéressant, parce que ça nous incite à réfléchir au rapport à l'image. Alors que les Belges ou les Suisses aient un rapport privilégié à l'image comme substitut à la langue sur des pays bilingues ou des pays qui sont confrontés à un problème de communication. Et effectivement, les pays où fleurit l'image sont souvent des pays où ce problème de communication est fort. Dans le cas de la France, je pense qu'il y a une tradition d'absence de la lecture du texte. C'est paradoxal. Ça tient peut-être au fait que l'enseignement, et en particulier l'enseignement primaire, a très tôt eu recours à l'image pédagogique qui s'est substituée au texte proprement dit, au texte de description. Les Anglais, par exemple, ont une connaissance de leur passé qui est beaucoup plus livresque et qui transite par une littérature de divertissement, romans policiers ou que sais-je encore, qui les dispensent d'avoir à illustrer les choses. Pas de bande dessinée anglaise, c'est quand même étonnant. En revanche, beaucoup de musées, beaucoup d'écomusées, beaucoup de reconstitutions en 3D.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais juste une dernière question qui était sur la vie de Saint-Odile. Enfin, c'est l'exemple de la vie de Saint-Odile. Non pas parce que Saint-Odile m'intéresse personnellement, mais au-delà de ça, c'est une vie qui est transposée plus ou moins telle qu'elle. Donc les événements semblent être transposés plus ou moins telle qu'elle. Et la question, c'est la question de l'adaptation. Est-ce qu'ils ont tout transposé sans aucun regard critique? Et la question du langage, qui fera la transition avec la communication suivante.
Oui.
Comment est-ce qu'ils ont rendu la langue? Est-ce qu'ils ont essayé de rendre la langue médiévale? Ou comment est-ce qu'ils ont travaillé?
Alors, là, on peut faire la généalogie de cette bande dessinée. Hein, il existe, je crois, 4 ou 5 versions de la vie de Saint-Odile en bande dessinée. La première est une version édition Fleurus, si je ne me trompe pas, des années 30 ou 40, qui est un texte de bas de page sous des séries de 3 cases, si mes souvenirs sont exacts. Donc c'est le texte explicatif qui reprend pratiquement la structure de la Vita du Xe siècle. Dans les versions ultérieures, ce texte disparaît au profit des bulles. Mais les bulles disent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on réduit la longueur des phrases, ça va de soi. Hein, on sera beaucoup plus sur le mode de la conversation ou au moins de l'énonciation. Et dans la toute dernière version, qui date des années 90, je crois, on va passer aux onomatopées, aux interjections, etc. C'est-à-dire que on va remplacer une bulle qui dit mon Dieu intervient, fait disparaître, je ne sais pas quoi, le péché. Et là, cette phrase va être remplacée par